Bonsoir. Oui, je suis bien avec le poète Tristan Blumel. Je suis allée le rencontrer à Nice. Tristan Blumel, bonsoir.
Bonsoir.
Votre biographie dit que vous êtes né en 1989 à Saint-Julien en Genevois. 1989, ça fait de vous un tout jeune poète, donc, dont le travail est tourné vers l'oralité, vers une présence de la poésie plus grande dans l'espace public contemporain. Voilà l'ambition. Mais avant de commencer l'entretien, voici des annonces relatives aux activités de l'association Les Mots d'Azur. Retenez la date du 3 mai. Vendredi 3 mai à 19h, au château de Moins-Sartoux, Magda Iguiarto lira ses poèmes. Je rappelle que Magda est aussi plasticienne, qu'elle vit à Malocène au pied du Ventoux et qu'elle a un temps animé cette émission avant moi. Revenons à mon invité, Tristan Blumel. Vous avez publié à ce jour plusieurs livres. Donc, Avant Musique, chez Abordeaux Éditions en septembre 2022, et Le Lampater et la Baignoire, toujours chez Abordeaux Éditions en septembre 2016. Également sur le site La Dernière Vague, donc j'invite les auditeurs à se rendre sur le site La Dernière Vague, vous pourrez également voir d'autres publications, d'autres choses qui ne sont pas réellement éditées mais à lire. Il s'agit du grand livre de Lalizarine, Nématographe, et ces petites choses-là sont dites objets poétiques non identifiés. Donc retenez le site La Dernière Vague.
La dernière vague.xyz.
D'accord. J'ai aussi lu que vous étiez membre du collectif niçois Palam, dont le nœud créatif est la randonnée en nature et les questions écologiques actuelles. Alors, la première question, ce sera celle-ci. Est-ce parce que vous êtes né en montagne que vous avez cette sensibilité à la nature et aux questions écologiques? Ou bien c'est juste une question peut-être de génération, parce que je crois que la jeunesse est vraiment se sent menacée par le réchauffement climatique et tout ce qu'on sait.
Je dirais, j'aime bien le monde. Parce que écologie, c'est un mot qu'on utilise pour désigner ce qu'on appelle bon un souci du lieu, un souci de la nature. Mais en effet, j'ai un souci du monde. Et heureusement, il n'y a pas tout le monde qui est habité par de la ville et nous ne sommes pas les seuls êtres vivants. Donc en fait, je m'intéresse aussi au. Là, on aperçoit une mouche qui se balade à quelques mètres de nous. Bon, je m'intéresse aussi à ce genre de choses. Je dirais que c'est un souci. Finalement assez simple sur la question du monde et du vivant.
Donc plutôt une façon d'être relié au monde, enfin d'avoir une relation au monde. D'accord. Votre dernier livre publié, Avant Musique, a été sélectionné pour le prix Bellovidaire. Alors, pour commencer d'abord, félicitations. De ce livre, j'ai retenu un extrait qui parle de la ville du Havre, la capitale du département de Seine-Maritime, deuxième port de France après Marseille, situé au bout de l'estuaire de la Seine et faisant donc face aux côtes anglaises. Ville chargée d'une histoire allant des guerres de religion à la traite des esclaves noirs, des bombardements de 1944 à la flotte des paquebots prestigieux, et c'est une ville connue pour sa tradition ouvrière et maritime. Est-ce que vous accepteriez de lire cet extrait, s'il vous plaît?
Lieu de l'estuaire, fondée puis détruite, juste condition du naufrage puis reconstruite, et de son île nouvelle, non, tu n'y es jamais allé, andouille. Autant vent que porte vers, dormir, mais en y rêvant, en quel endroit planter nos élans, couler les sources de nos restanques, farfouiller les origines ou les concrétions. Fable ou fantaisie, voilà, c'est là, département 76. Un jour de trafic, tu essayes de t'y rendre sans rémission, avec le goût du définitif aux chaussettes. Le Havre est une ville dans le nord de la France. Fictif équilibre des définitions. Prendre la paix au pied de la lettre, comme on piège une tempête à la télévision. Tu voudrais demeurer derrière tes yeux pour observer et comprendre la guerre qui se joue aux côtes contre le possible, dans l'étrangeté soufflée ou l'évidence sentie, croire détenir une solution fiable quand il n'y a que sa facture de baudruche. Le Havre est une ville dans le nord de la France. Avec trois ânes et deux lingots, on pourrait bâtir un empire de grelots avant que la fortune ne saccage ce paradis made in Eden, que la désolation ne verse son océan. Tu sombres pour ne plus y lire de signes. Aux figures du dessus des cartes s'oppose la transparence du plancton. L'abandon est séduisant. Il a le parfum de la sagesse. Des corporations mentales détiennent déjà la majeure partie des fonds. Cette situation pue si bon. Quelle grande foire ambulante qu'on y achète son échec. Mais sans abîme à suivre, tu te retrouves bientôt fanfreluche, pendu au hocher. Lucie, dans quel nom et pour quelle cause? De quoi est-on en manque? Pourquoi n'est-ce pas si grave? De cette mesure du salut comme estime dilatée, tu fuis, nyctalope, en finir avec l'attente et la crainte d'y rester. Comme, et même avant il y avait des peintres de temples et des bistrots de paillardise, pour le clin fumeux plutôt que la grande structure, pour la vache qui beugle au fromage de la comparaison. Me suis dit qu'en l'état, nous n'avions rien à exiger, et que par là, libre de tout penser, à l'âme, prairie et crevaison.
Merci beaucoup pour cette lecture qui permet aux auditeurs de faire connaissance avec votre écriture, donc prose poétique, on pourrait la nommer comme ça. Alors on perçoit dans ce texte à la fois le biographique, le personnel, l'anecdotique, et une note plus citoyenne, plus engagée, plus critique. Dans ce passage, on voit que l'écriture fonctionne par allusion. Ce n'est pas une déconstruction méthodique de la société dans laquelle nous vivons, mais on comprend que vous vous inscrivez en faux avec celle-ci, qu'il y a un divorce. Pensez-vous la poésie capable, sans passer par le raisonnement et la démonstration seulement, en faisant partager ou traverser une expérience avec des sons et des mots? Est-ce que c'est possible, avec ces outils-là, de faire basculer les consciences?
Je trouve que la poésie, la création, l'art en général, ça essaye de changer les choses, mais sans y toucher, quoi. Donc basculer, c'est un mot un peu fort, mais il y a quelque chose comme ça de toucher les choses de l'intérieur pour que le sens des choses change un peu. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que les poèmes ont un effet, en tout cas sur moi. Ça vient un peu changer les perspectives des intérieures des choses sans changer les choses. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que des personnes sont aussi affectées comme ça par les mots, vous avez dit les mots, les sons, l'espèce de dynamique un peu allusion, parce que c'est vrai que c'est jamais exactement très clair ce que je dis, mais enfin, sauf des fois il y a des fulgurances de clarté, mais c'est parce qu'il faut réussir à dire quelque chose qui n'est pas très clair. Enfin, si on pouvait le dire autrement, en considérant que avec des textes très clairs, on le ferait, hein, mais je suis né à Saint-Julien-en-Genevois, il est vrai, mais en fait j'ai jamais habité là-bas. J'ai habité beaucoup à Nice, puis à Bordeaux, puis à Biarritz, puis un peu dans plusieurs endroits. Donc il y a un peu ce truc de l'errance et de la recherche du Havre. Enfin, qu'est-ce qui m'a conduit à l'écriture de ce texte? Je cherche le Havre, mais finalement le Havre, c'est une ville dans le nord de la France. Donc peut-être je devrais aller là-bas. Bon, de fait, je n'y suis jamais allé, mais actuellement, je suis bien, puisque nous sommes dans mon salon sur un bon canapé, mais donc peut-être j'ai trouvé un peu un havre temporaire. Il y a cette recherche, dans tout cas, du Havre, bon, qui m'habite et qui habite beaucoup de gens, hein, parce que bon, j'ai beaucoup de copains, d'amis qui errent un peu aussi à la recherche d'un endroit où se sentir bien.
Et oui, trouver sa place. Pour continuer cette réflexion, les éditions à Bordeaux affichent cette profession de foi. Depuis 2010, à Bordeaux Éditions se veut une fenêtre ouverte sur le monde. Une expérience pour élargir les horizons et enrichir les imaginaires. Notre ligne éditoriale met en lumière le mouvement, la vitalité d'une poésie contemporaine exigeante et multiple, en mutation permanente. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben voilà, Tristan Blumel a trouvé l'éditeur qui lui convient parfaitement, puisque dans Avant Musique, vous dites « Nous croyons en une poésie actuelle, à fort principe actif, qui insuffle tout de go » son énergie sans se replier sur elle, en défilé d'automates, triste esprit, boum, tchac, boum. Il faut agir avec et contre la langue, faut se confronter au brouhaha, plonger dans l'intensité du « ha ». Nous pensons que, par la mise en chaos salutaire qu'elle opère, la poésie est l'outil de communication d'un présent révolutionnaire. Voilà une affirmation que je trouve musclée et qui vous place, sans être... et on le précise, ni poète sonore, ni bruitiste, quand même du côté de la poésie-action, qui prend donc en compte trois dimensions, orale, corporelle, et la profération vécue en direct, liée à une pratique de la performance, de la communication directe et de l'art vivant, qui privilégiait la fonction poétique du langage. Est-ce une simple question de génération ou bien de mode ? Pourquoi pensez-vous à l'heure actuelle, un grand nombre de poètes s'impliquent dans la performance ?
Je viens d'une culture un peu théâtrale, improvisation théâtrale. Avant de faire de la poésie, j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale. Parce que c'est rigolo quand même de faire le nigo ou le nigo très sérieux, bon, d'être traversé par des choses sur scène. Enfin, je trouve que c'est assez intense, c'est assez sympa. Donc, quand j'ai commencé à écrire des textes, ensuite j'ai eu naturellement envie de les partager. C'est venu un peu de manière simple et de vouloir partager les choses. Et après, il faut trouver des modalités. Alors, c'est vrai que souvent, on appelle ça performance parce que comme j'apprends pas mon texte, donc il faut trouver des moyens de faire que ça soit vivant, soit en sortant des bouts de papier, soit en improvisant, soit en étant traversé par des choses. Et puis, du coup, il y a toute l'implication corporelle qu'elle a avec pour que ça soit quelque chose d'entier. Et après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est aussi par ça qu'on fait des choses en tant que poète. C'est-à-dire, bon, là, moi, je suis à Nice, il y a un milieu de l'art contemporain assez vivant. Si je reste dans mes papiers, je ne vais pas faire grand-chose, quoi, dans le sens... je ne vais pas pouvoir partager beaucoup, je ne vais pas pouvoir facturer beaucoup. C'est un peu le moyen de faire des choses. Et après, il y a sûrement des raisons idéologiques, mais il faut faire des choses, s'impliquer entièrement dans ce qu'on fait, quoi.
Alors, mon petit doigt m'a dit, vous alliez... vous installez sur le marché et que vous vendiez des poèmes ?
Moi, au départ, ce n'est pas quelque chose que je revendique comme ayant du tout inventé. Hein. Moi, j'ai vu un poète, un très bon poète qui s'appelle Antoine Bérard, qui faisait ça au bord du musée Beaubourg. Je pense qu'il s'est inspiré, qu'il a vu ça aux États-Unis. Donc, c'est vraiment l'idée. Bon, alors, il y a le folklore avec la machine à écrire, qui se trouve est un objet qui permet d'écrire et d'imprimer en direct. Sans se soucier des erreurs de typographie liées à une flemme de poignet. Et puis ça donne un charme. Et ça permet peut-être de s'impliquer un peu moins, dans le sens où c'est un peu la machine qui écrit. Ça va un peu plus vite avec la machine à écrire qu'avec le stylo, dans ce cadre-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vient répondre un peu à un besoin, des fois à un besoin de poésie. Les gens viennent et... ils ont besoin d'un poème sur la question du désespoir, sur la question du pardon, sur la question de leur amant qui habite à l'autre bout du monde. Et donc, ça fait des petites choses comme ça. Et bon, moi, j'aime bien, ça me permet d'être dehors, de rencontrer des gens, de discuter avec les gens. D'un coup, la pratique, elle est un peu plus ancrée dans le monde. Elle n'est pas juste le poète seul dans sa tour. Et ça fait un peu des petits sauts. Ce qui est bien pratique, et je passe des bons moments, quoi, en tout cas, et je pense que les gens aussi, Et ça permet de créer de la visibilité pour la poésie, donc qui est aussi une des choses importantes. En tant que poète, je pense qu'il faut, il faut essayer de rendre visible la poésie, parce qu'elle en a bien besoin.
Comment vous procédez? Les gens viennent vers vous et ils vous commandent un poème sur un thème donné, sur une personne sur...
Je leur demande quel est leur besoin, leur désir de poésie, ouais. Et donc ils vont me dire quelques trucs, comme des fois ça peut être des sujets graves, sur ils veulent un poème parce que quelqu'un est mort et qu'ils ont besoin, de mettre des mots. L'anecdote que je raconte souvent, parce que je faisais ça à Bordeaux déjà il y a une dizaine d'années, quelqu'un qui était sorti d'hôpital psychiatrique et qui voulait un poème pour remercier les infirmières, les infirmiers qui l'avaient beaucoup aidé. Et il était un peu démuni face au langage et il m'a demandé, moi, de mettre des mots. Et après, bon, ce qui est assez rigolo, c'est que juste en discutant avec la personne, pas très longtemps, on arrive un peu à sentir son énergie, je sais pas, et des fois on écrit un texte qui correspond un peu à la personne, quoi, dans le sens où je demande tout le temps, moi, le prénom, par exemple, pour qu'il y ait vraiment un lien. Il faut au moins que la personne donne des mots, pour qu'il y ait quand même un lien direct entre le poème qui est écrit et la personne. Que ça soit... Pour pas, j'ai pas envie d'être tout seul dans cette affaire, en tout cas. Voilà. Faut me laisser du temps, 10 minutes, un quart d'heure, et il faut qu'il me reste du thé. Parce que souvent, les gens demandent d'où vous vient l'inspiration, mais l'inspiration, je sais pas, moi, c'est... Il me faut du thé et du temps. Voilà.
Ben voilà, vous avez les clés du temps et du thé. Alors, vous dites, la poésie n'est pas visible. Alors, je vais m'emparer de ça... Pour revenir sur la polémique qui a agité le milieu à la fois des médias, de la poésie, etc. Je rappelle les faits. Sylvain Tesson nommé parrain du Printemps des Poètes par Sophie Nolot. Un certain nombre de poètes signent une pétition en disant que Sylvain Tesson n'est pas représentatif et ne veulent pas de ce parrain-là. Sophie Nolot démissionne. Certainement pour d'autres raisons, en plus de celle de Sylvain Tesson. Après, de nombreux noms d'oiseaux sont échangés de part et d'autre. Des bons articles dans Libé, dans le Nouvel Obs, dans Mediapart, etc. Donc c'est pareil, chers auditeurs, si vous ne connaissiez pas cette polémique, allez voir sur Internet. Donc Tristan Blumel, vous avez envie de commenter cette polémique?
La poésie, c'est quand même... quand ça vient trop frotter aux institutions, comme ça, il y a des zones de frottement, quoi. Et bon, le Printemps de la poésie, c'est quand même une grosse institution, là, de poésie. Et donc, je pense que sa méthode de fonctionnement, les choses qu'elle porte, souvent, ça correspond pas à ce qu'on voudrait que porte la poésie. C'est pareil pour pas mal de grandes maisons d'édition, des fois, où il y a comme une disjonction, des fois, entre ces choses-là et le milieu de la poésie, en ce qu'il a aussi de grand, il y a beaucoup, si on prend les éditions à Bordeaux, donc, qui n'est pas en effet un grand éditeur, ça fait plus de 10 ans qu'ils font des choses, même plus de 20 ans, ils n'ont jamais été invités à la Maison de la Poésie, ils n'ont jamais vraiment été invités, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas assez médiatiques, qu'il n'y a pas cette espèce de froufrou people, et, alors qu'en fait c'est des gens qui essayent de faire vivre la poésie. Et je crois que là, cette polémique, finalement, c'est toutes ces voix-là qu'on a eu un peu marre, qu'on les considère comme inexistantes. Après, il y a eu plein d'articles, justement, qui ont bien enfoncé le coup sur le fait que si on n'était pas un poète qui avait publié 40 recueils à 40 000 exemplaires, on n'existait pas, etc. Et c'est un peu compliqué parce que le milieu de la poésie, il est très large. Il y a plein de petites scènes ouvertes. Enfin, je dis, il y a plein de grandes scènes ouvertes qui ont lieu dans plein d'endroits et de recueils. Alors, peut-être, ça correspond pas toujours à la sauce frite qu'on aimerait. Et peut-être qu'il n'y en a pas assez de la poésie vraiment géniale, ça c'est peut-être, mais c'est bien si on arrive à donner la parole à ces gens-là et faire que ce soit un peu moins des gens dans leur bureau qui touchent les quelques sous que rapporte la poésie, qui s'y mettent dans la poche et puis qui après décident quoi en faire et quoi faire de ceci, quoi faire de cela, c'est un peu embêtant, ouais.
Alors on parlait un petit peu de performance. J'imagine que vous connaissez des auteurs performeurs tels que Julien Blaine, Serge P, Charles Penquin, Pierre Guéry et d'autres encore. Est-ce que ce sont des gens qui peuvent, vous qui êtes jeune réellement, qui peuvent vous avoir influencé ou en tout cas ouvert des voies?
Il y a ce côté la performance, mais finalement c'est la question des fois du texte et de l'énergie qui est mise dans le texte. en ayant vu bon, des performances, que ce soit très énergiques comme celle de, bon, de Penkin, en ayant vu des vidéos de Tarkos, ou en ayant vu aussi simplement des lectures de Frank Smith. En tout cas, il y a cette volonté de faire partager le texte, pour reprendre un terme du théâtre Buteau, de le faire pour de vrai. C'est-à-dire que si le texte est énervé, parce que, bon, typiquement, ces poèmes de Penka sont un peu énervés, comme ça, un peu... Ben, il faut les lire comme ils sont, quoi, sans forcer le trait. Bon, moi, c'est ça qui m'influence, je dirais, mais je pense qu'il y avait ça, déjà, dans Henri Michaud. Hier, j'ai lu du Rimbaud, alors que mes camarades jouaient du piano. Ben, on peut dire que c'est quand même un peu énervé, aussi. Et du coup, la performance, elle est là déjà. Enfin, je veux dire, elle est dans le texte, quoi. Il suffit juste de lire le texte tel qu'il est, vraiment, de se laisser traverser par le texte. C'est ça qui m'influence, quoi. Et après, oui, les questions de le théâtre d'improvisation, la danse contemporaine, l'action theater, c'est plus des choses comme ça. Parce que là aussi, quand je dis que la poésie n'est pas hyper visible, c'est qu'en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait tout le temps des super poètes qui passent en bas de chez moi, mais... La plupart du temps, quand je veux de la poésie, j'écoute de la musique, je vais à un concert ou je vais voir de la danse. Parce que ça, c'est un peu... Ou je vais au cinéma. Le cinéma, il est toujours ouvert, c'est bien. Ça, c'est accessible, c'est visible, on peut y aller facilement. Et après, je ne dis pas que c'est pareil que la poésie.
Je me demandais... Et bon, j'ai eu un élément de réponse, puisque je sais maintenant que vous êtes... Vous avez vécu à Bordeaux, mais comment avez-vous rencontré votre éditeur des éditions à Bordeaux ?
J'ai cherché sur Internet et j'ai envoyé un courrier. Donc ça a bien fait rire l'éditeur parce que bon, j'aime beaucoup le papier. Et j'avais écrit ça donc, sur un immense papier, sur ces grands rouleaux de papier blanc type nappe. Et donc j'avais écrit une grande lettre. Il devait faire, bon, je sais pas, l'éditeur à la garde très précieusement, il est très heureux, 3 mètres sur 4 mètres, avec les textes, quoi. J'avais envoyé ça par la poste, simplement, hein. Et j'ai pas envoyé beaucoup de lettres de motivation de 3 mètres sur 4 mètres, parce que ça a mis du temps, en fait, pour arriver à ce moment-là. Et ça, c'est très lent, la poésie, sur ce sens-là, c'est-à-dire pour arriver au moment où là, pour de vrai... On sent qu'on va envoyer la chose vraiment et qu'il y avait, visiblement, je me sentais bien avec cet éditeur, que j'avais envie de... Ça m'a donné l'énergie d'écrire cette grande lettre de motivation. Et puis après, on s'est rencontrés, on a bu un café, et disons qu'il y a certains textes que je lui ai envoyés sur lesquels il a été... Carl Diaz et Frédéric Paquet ont été sensibles. Et donc c'est, ouais, par la poste.
Alors, je vais vous demander de lire encore un extrait de Avant musique, s'il vous plaît. Alors là, c'est vous qui allez le choisir.
Donc là, on est un peu moins sur de la prose, c'est un peu plus ce qui constitue le recueil, c'est des petites phrases, virgules, des petites phrases. Et ça, je dis souvent, quand lors d'interventions en ce moment dans les écoles, que c'est, je pense, le texte le plus drôle que j'ai écrit. Que j'ai réussi à écrire en faisant à base de caviardage un peu, d'un coup c'est un peu, enfin, au départ c'est l'idée, disons, est venue en faisant du caviardage dans un livre un peu pornographique, parce qu'il y a beaucoup d'idées drôles, de mots drôles dans les livres pornographiques, parce que souvent les auteurs se sentent vraiment libres d'écrire n'importe quoi, donc c'est un beau, une belle mine d'or, voilà. Gérard avait un homard dans les cheveux. Il eût été commode d'enlever la truelle qui pendouillait au cou de Valérie. Un autobus s'était immiscé entre les orteils de Philippe. Que de rêves de pyjama mauve avait fait Justine. Il y eut un court épanchement sur la langue de Ludmilla. Dominique éteignit l'allume-cigare de sa Thunderbird.
Vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct et vous venez d'entendre mon invité Tristan Blumel lire un extrait de son dernier livre publié, intitulé Avant musique. Alors, c'est un titre très synthétique, peut-être même un peu énigmatique, et ça fait partir l'imagination sur au moins deux pistes. La première, parce qu'elle fait écho à l'expression « en avant la musique », injonction festive, joyeuse, dans le domaine du collectif. La deuxième piste serait de découvrir un lieu d'avant la musique, un espace de l'origine, plus discret, plus intime donc. Qu'avez-vous voulu communiquer grâce à ce titre ? Et parlez-nous un peu de ce livre, de sa construction, de son propos.
Le tout début de ce livre, c'est quand je faisais des performances dans la scène expérimentale alternative de musique bordelaise, des premières parties de concerts étranges. Et parce que finalement, ça, c'est un endroit où, par exemple, la poésie pourrait vraiment se mettre. Quand on va voir un concert expérimental, pourquoi pas un peu de poésie avant ? Et donc, quand je faisais ça, j'avais envie de textes, comme des mots qu'on projette et qu'il n'y ait pas besoin de l'aspect narratif, contrairement au premier texte que je vous ai lu, où il y a un peu un aspect, une progression narrative. Là, je voulais justement des textes qui soient comme des pilules, des projections de mots qu'on reçoive. Parce que je trouve que ça se prête bien à quelque chose qui vient avant la musique, c'est-à-dire où on reste sur une suspension du sens, où on reste dans une espèce de brouhaha, de gribouillis, où le sens est moins clair que là, dans les phrases que je suis en train de vous dire. C'est sensé, hein, plus ou moins, mais tandis que dans ces poèmes, justement, j'étais un endroit où j'arrivais même plus à écrire de phrases. Enfin, j'avais plus envie d'écrire de phrases, parce que finalement, une phrase, ça avait déjà trop de sens. Alors, une stratégie, c'est d'écrire une phrase, virgule, et puis d'écrire une phrase qui dit un peu le contraire, ou qui vient creuser une variation de la même phrase, comme un peu quelque chose qui fait que la phrase n'aboutit pas, finalement, où il y a une espèce de répétition de la même phrase, un peu déformée, avec des mots différents, qui vient un peu creuser la même vibration. Et là, on est un peu sur ce truc, voilà, en tout cas, avant la musique, avant la possibilité que la symphonie démarre, que le sens soit juste. Finalement, j'ai essayé de creuser comme ça plein de manières différentes de faire vibrer le langage, que ce soit avec des verbes, des déterminants, et toutes les petites phrases qu'on peut dire dans la vie, comme je vais là-bas, ou j'aime bien les fleurs, enfin, comment j'aime bien les fleurs, comment faire un poème avec ce type de vibration. Et puis, en fait, petit à petit, ce recueil, je l'ai écrit dans l'arrière-pays. Je l'ai écrit principalement dans la vallée de l'Estéron. Et donc, à force de faire tourner ces espèces de phrases et de virgules, finalement, le temps est passé. Et en effet, je me suis dirigé vers une sorte de musique. Et c'est pour ça que vers la fin du recueil, il y a des textes qui commencent où les phrases ne se répètent pas. Elles commencent à succéder. Il commence à y avoir un début de mélodie. Et donc... Donc en effet, il y a en tout cas ce double sens de avant la musique, comme un peu un apéritif avant la musique, et puis quelque chose qui, à la fin, cherche à mettre en avant une musique qui n'est pas une mélodie pop tout à fait claire, qui est plutôt un espèce de brouhaha, c'est un peu trop comme mot, mais un bruit du sens, on pourrait dire, ouais.
Dans la préface de votre premier livre paru chez À Bordeaux, Le Lampadaire et la baignoire, on lit ceci. Si Tristan Blumel était électricien, il serait expert en court-circuit. Mais de court-circuit qui ferait de l'électricité une force universelle accessible à tout un chacun, gratuitement, partout, tout le temps. Pour le dire autrement, Blumel n'écrit pas de poèmes, il sculpte la langue, il saisit des blocs de mots et de phrases, et en retire d'énormes pans pour atteindre à l'évidence du monde. Et ça, c'est Sébastien Jounel qui l'écrit, qui est l'auteur de cette analyse. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce commentaire ?
Bon, c'est un commentaire élogieux, alors. Enfin, je veux bien le prendre. Hein. J'ai une amie qui dit que mon signe Yiking, c'est tonnerre, éveil, ébranlement. Et bon, il y a ce côté quand même, vouloir foutre un peu de désordre. De vouloir faire disjoncter quelque chose, ouais. Ça n'est pas tout droit, je crois que peut-être je m'ennuie ou peut-être j'ai envie, enfin, je suis trop agité intérieurement, je pense que ça c'est vrai, c'est ça qui m'a conduit à écrire de la poésie, c'est un peu trop d'agitation, il faut que ça déraille à un moment parce que et que la poésie peut essayer de dire, c'est ce déraillement des choses. Et quand je dis un présent révolutionnaire, c'est qu'il y a quelque chose qui doit... Il doit y avoir un peu du feu qui vient secouer.
Comme mettre un coup de pied dans la fourmilière.
On peut dire comme, mais le problème, la fourmilière, c'est quand même sympa. Alors là, voilà, c'est toute cette question de comment on fait pour faire secouer les choses, mais pas non plus, pas abîmer la fourmilière. Et il y a cette expression, j'ai pas regardé ce que ça voulait dire, mais faire feu de tout bois, il me semble, c'est pareil, c'est pas hyper positif. Hein. On veut pas mettre le feu à tous les bois, là. Enfin, on veut essayer de se construire un fusil pour tuer seulement sur les méchants. Tirer sur ce qui est méchant, tirer sur ce qui est mal. Pas abîmer les fourmilières.
Alors donc, j'ai cité le nom de Sébastien Jounel, qui est l'auteur de la préface de votre premier livre. Et j'ai pensé important de préciser, pour justement saisir l'importance et la grande valeur d'une telle préface, que Sébastien Jounel était chercheur en cinéma à l'époque. Il a entrepris en 2008 de réaliser un film ethnographique sur le slam. Et pour éviter le risque de la simple captation de performance et face aux difficultés générées par la réticence des auteurs à s'expliquer, à se dire, à se dévoiler devant une caméra, Sébastien Jounel a pris le risque de l'immersion et s'est jeté à l'eau. Il est monté sur scène en tant que slameur et il découvre alors toute l'étendue de la pratique du slam, de ce qu'elle engage et révèle des pratiquants, de l'écriture jusqu'à la scène. Et ce qui est merveilleux et formidable, c'est qu'il obtient du succès et de la reconnaissance sur les scènes slam. Et le voilà propulsé de derrière la caméra au devant de la scène, avec un mouvement de traversée du miroir qui le place aussi de l'autre côté de l'objectif de sa caméra. Ce qui a donc permis de capter à la fois le regard extérieur du spectateur et le regard intérieur du pratiquant. Cette longue parenthèse refermée, est-ce que vous avez déjà rencontré Sébastien Jouvel, Tristan ?
Ah oui, c'est mon camarade, j'en profite pour le saluer et pour dire, là, mais avec tout ça, il a réalisé un court-métrage et un long-métrage de fiction qui, je pense, j'ai perdu le nom là, mais on pourra, j'espère, bientôt le voir. C'est vraiment un long-métrage avec une société de production, un truc sérieux, du budget, pour essayer de faire un film sur cette question-là, justement, du slam, parce que c'était un moment, il y a un peu 10 ans, à Bordeaux, où d'un coup, avec Sébastien Jounel, avec d'autres personnes, comme Caillou, Delco, 2035, Maras, ça me fait plaisir de les citer, là, Le Bon Slamaritain et Daitoa, bon, il y en a plein d'autres, on a essayé de faire vivre la scène slam de Bordeaux. Alors, cette idée du slam, souvent, on mélange avec la musique. C'est surtout l'idée de la contrainte des 3 minutes qui fait qu'on doit balancer un texte en 3 minutes maximum et faire que ça touche les gens. J'ai organisé beaucoup de scènes slam, j'ai participé à beaucoup, j'ai même fait des tournois parce que c'est une scène là aussi assez vivante qu'on trouve un peu partout en France. Puis il y a toute une communauté qui se déplace même ailleurs dans le monde. Moi, je me sentais à la fin un peu stressé, un peu enfermé là-dedans. C'est aussi ce truc où il faut tout le temps écrire des textes pour la scène suivante, finalement. Alors à la fois, ça donne envie, mais on perd un peu ce temps un peu vaporeux de la poésie. Et typiquement, j'ai pas envie de couper plein d'arbres pour imprimer plein de papiers où il y a marqué des sottises ou des choses ennuyeuses qui ont déjà été dites. Alors il faut faire attention de bien prendre le temps pour écrire des choses qui sont bien. Voilà, ouais. Je dis souvent « voilà » à la fin des phrases. Alors peut-être je vais changer, je vais dire « tintinabulé ».
Alors, est-ce qu'un lampadaire ou une baignoire, ça tintinabule ? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien vous entendre lire un extrait de ce livre. Et puis, vous pouvez aussi nous le présenter, peut-être. Quelle est sa genèse ? De quelle réflexion ? De quel événement ? L'écriture a démarré pour arriver à ce livre final.
Bah donc, au départ, dans ce livre, il y avait pas mal d'autres textes. Et au départ, il s'appelait même... À la chaloupe. Il y a un texte d'amour compliqué, je dirais. Ça, c'est, bon, il y a souvent ça. Hein. Et après, si on prend le texte éponyme, le lampadaire et la baignoire, il y a une phrase, par exemple, que j'ai écrite à ma mère dans une grande lettre. La poésie, le projet, c'est quand même qu'elle fasse corps avec la vie. D'accord, elle existe dans les livres, mais c'est quelque chose, je trouve, d'utile et de concret. Moi, j'avais écrit cette phrase à ma mère qui n'allait pas très bien à un moment. Et Et puis après, j'ai été traversé par différentes choses. J'étais en Irlande et j'ai écrit ce texte qui, là, pour le coup, par rapport à Avant Musique, même si c'est comme un texte un peu là, épiphanie. Alors, des épiphanies, on ne peut pas en avoir tous les jours. C'est pour ça qu'il faut essayer. Sinon, c'est du factice, je pense. Bachelard, Gaston Bachelard, qui aime bien associer des éléments naturels au poème et à la poésie. Disons que là, le Lampen et la baignoire, comme indique le titre, je suis plutôt sur des poèmes à queue et en mettant avec de la lumière. Et je crois que le mot lumière et le mot océan, en ce moment, reviennent un peu de manière obsessionnelle dans mes poèmes. Bon, j'essaye de... Avec le mot ciel aussi, j'essaye de corriger ça. Mais bon, je vais vous lire ce petit poème qui ressemble vraiment à un poème un peu... Un poème-poème. Hein. Là, on est sur du poème-poème. Il y avait un lampadaire au coin de la rue et une baignoire dans la salle de bain. Soudain, les deux s'inversent. On se lave avec de la lumière et l'eau nous guide. Alors on se met des lampes frontales au cœur et des gondoles aux pieds. Ce curieux lampadaire qui s'éteint au réveil et cette étrange baignoire au territoire limité restent des objets d'emprunt. Mais donc, enfin, on s'entend. Nos larmes ne sont pas que de l'eau. L'extrême feu a d'inépuisables reflets.
Merci beaucoup. Alors moi, quand j'ai lu ça, Le lampadaire et la baignoire, je me suis dit, tiens, c'est presque un titre à la Francis Ponge. Et puis, la manière dont vous l'avez introduit, je me suis dit, tiens, on va avoir un petit oiseau et un petit poisson s'aimer d'amour tendre. est-ce que c'est ça aussi, en fait, le miracle ou la merveille de la poésie, c'est comment les gens se l'approprient, comment ils viennent au contact, et qu'est-ce qu'ils voient et entendent avant même que le texte se déploie. Et est-ce que vous avez un peu les mêmes expériences, vous lisez des titres quand vous voyez des extraits?
Là, en effet, le titre, il se réfère à deux objets. Il y a cette idée d'aller chercher de la poésie là où il n'y en a pas exactement. Ça, c'est un peu, je dirais qu'il y a une intention du titre là-dedans. Mais enfin, là où il n'y en a pas exactement, c'est quand même dur de trouver un objet plus poétique qu'un lampadaire, bon, et une baignoire. Je défends ardemment les baignoires, parce qu'aujourd'hui, on a un peu beaucoup de douches, et je trouve que les baignoires manquent un peu. Il y a des gens que je salue aussi de l'Office poétique de Grenoble, qui à deux reprises ont parlé de ce livre-là. Donc, qui est quand même sorti il y a plusieurs années, mais qui a été réédité. Et puis, là, je suis heureux parce que des gens en parlent un peu. Ça prend du temps. Et c'est drôle parce que ces deux, elles en ont parlé de deux façons complètement différentes, en tout cas. C'est-à-dire que le texte a résonné en elles de manière assez différente. Et c'est vrai que moi, j'ai des anecdotes hyper personnelles sur chacun des textes que j'écris. Mais c'est des choses un peu cryptiques et cachées. À la fois, c'est biographique, mais... C'est plutôt la biographie, je crois que ça c'est un autre poète qui dit ça, je sais plus, la biographie d'un jeu. Je cherche à soulever des problématiques, je suis pas le seul à être traversé par ces... Mais en effet, ces anecdotes personnelles disparaissent un peu à la lecture pour les personnes. Et il y en a une qui a vu dans ce recueil quelque chose de très scientifique, ce qui est assez drôle parce qu'en effet, au départ, j'ai fait des études de sciences, hein, de physique. Tandis que l'autre a été plus touché par, en effet, un rapport au sensible. Comme tout le monde, je pense, je revendique le sensible sans revendiquer la sensiblerie, c'est-à-dire sans essayer de rester vrai sur ce qui peut être sensible et ce qui vient être un peu une superficialité qu'on pourrait poser sur les émotions de l'être ou une manipulation émotionnelle. C'est des choses assez authentiques, normalement, qui sont dites, mais... Voilà.
Non. Voilà, voilà.
Il faut exorciser, là. Bon, j'essaye d'exorciser mon obsession au ciel et à l'océan. Là, je pense que c'est le moment d'exorciser mon obsession du voilà. Et donc, je vais vous lire un texte, justement, qui parle de ce voilà. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, comme hygiène poétique, c'est essayer, dans mon recueil, en tout cas, il y a 11 474 mots. dont 8160 qui sont pertinents, et parmi ces 8000 mots, il y en a 3628 qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a quand même presque 50% des mots qui sont dits qu'une seule fois. Et ça, je pense que c'est intéressant d'être vigilant sur l'utilisation des mots, parce qu'on peut vite se renfermer dans les mêmes mots, dans les mêmes sensations, comme dirait Henri Michaud, d'essayer de travailler son savoir sensible. Et donc là, un poème avec beaucoup de voilà. Voilà, le feu, un sens, de quoi le remplir. Voilà, des morceaux de tuiles cassées, de vieux magazines, un banc où s'asseoir. Voilà, la météo, les talkie-walkie, des signes, l'exploration. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, sur la table qui est devant nous, il y a un immense livre rouge et on peut y lire le grand livre de la Lizarine, voilà, par Tristan Blumel. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu de ce grand livre.
Donc c'est un livre que j'ai réalisé lors d'une résidence Rouvrir le Monde avec la DRAC PACA et la station à l'IME, donc à l'Institut Médico-Éducatif de la Lizarine à Avignon, dans lequel j'ai passé 2 semaines à faire des ateliers hebdomadaires auprès des enfants porteurs de handicap qui habitent ce lieu. Et j'ai cherché un peu à habiter ce lieu, à la fois en passant du temps et pour essayer, dans ce grand livre de la Lizarine, de mettre finalement comme un peu ce côté poésie-reportage que j'aime bien. C'est-à-dire que la poésie, ça permet à la fois de mettre des mots concrets et à la fois de saisir un peu du sensible, du vaporeux qui se passe dans ces endroits. Et donc j'ai réalisé ce grand livre avec les enfants, parce qu'il y a la moitié des pages qui sont un peu des dessins, des espèces de poèmes, d'images, de quelques mots réalisés avec les enfants et mélangés à des poèmes que j'ai écrits et qui soient des portraits d'enfants, soit des captations d'instants pour essayer de parler de cet endroit-là. Ça, c'est une des choses que peut faire, de même qu'un reportage, un reporter de guerre peut documenter les conflits avec toutes les problématiques qu'on connaît. Je trouve que c'est un beau projet poétique d'essayer de se mettre dans des endroits et d'essayer d'en parler, d'en saisir toute la texture. Et du coup, de remettre comme ça de la texture, de remettre de la lumière sur ces endroits-là.
Alors, quand vous dites poésie-reportage, moi, je pense par exemple à Sophie Geluca. Je peux penser aussi à Fabienne Sviatli, qui a fait un livre sur les infirmières et personnel hospitalier de nuit aux urgences. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces...
Non, oui, mais ça donne envie de lire, alors oui. Mais après, ce qui est génial, c'est quand on ouvre des portes comme ça aux poètes, parce que, bon, c'est... En fait, moi, tout seul, j'aurais pas pu, on m'aurait pas permis, je pense, de faire une résidence à la Lizarine. Et c'est là que j'ai eu le soutien de différentes institutions. Et du coup, j'ai pu vivre cette aventure. Et ça donne envie, bon, d'aller se mettre comme ça, de parler. Mais après, je suis curieux de lire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de manières différentes d'écrire des poèmes et d'écrire, notamment, bon, des poèmes reportages. Et donc, c'est... Moi, j'appelle ça comme ça, là, mais je sais pas. Hein, c'est pas non plus... Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est la poésie objectiviste de Reznikov, de Frank Smith ou d'autres choses comme ça, où là, il y a vraiment un côté documentation. Mais il est vrai que c'est pas... Des fois, ça, c'est pas exactement du lyrisme. Ça manque un peu de désordre lyrique. Mais ça permet de se plonger dans un espace, dans des considérations historiques assez fortement, ouais.
Vous l'avez rencontré, Frank Smith ?
Oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle, là, mais non, j'ai vu une fois faire de la poésie à Bordeaux. Hein. Mais il a un mot, un nom dont on se rappelle, en tout cas.
Oui, et c'est quelqu'un d'abord très abordable et de très bienveillant, très très gentil. Donc Frank Smith, chers auditeurs, c'est pareil, si vous voulez aller voir un petit peu son travail, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder. Il y a des extraits sur YouTube de ses vidéos, de ses œuvres. La tradition de l'émission, Tristan, veut que l'invité, vous donc, fasse partager aux auditeurs une musique ou une chanson, quelque chose qui l'accompagne pendant qu'il écrit, ou quelque chose qui fait partie de son passé ou de son œuvre, et puis de nous expliquer pourquoi ce choix.
Alors, je partage avec vous, disons, une vieille chanson qui est un peu, qui correspond au début de Tristan Blumel, comme ça, enfin, une chanson initiale, en tout cas, de mon amour de la poésie, qui s'appelle Versailles, qui est une chanson d'un groupe bordelais qui s'appelle Chocolabilly, sur l'album, le premier album, qui est Mon père et ma mère, au label des Potagers Nature. Et donc, c'est un peu un tube. Un tube dansant comme si on était un petit lapin au milieu d'un champ et qu'on dansait partout.
Thank you.
Vous venez d'entendre un morceau de musique intitulé « Versailles » joué par le groupe Chocolat Billy, un titre qui apparaît sur l'album « Mon père est ma mère » et ici « est » s'écrit « EST ». C'était le choix musical de mon invité, le poète Tristan Blumel.
On va peut-être écouter maintenant les derniers textes, donc des textes inédits de Tristan Blumel, que vous allez nous lire. Et ils ont ceci de peut-être différent par rapport à ce que j'ai vu dans les livres précédents, c'est que, bon, c'est pas encore du Dubouchet, mais enfin, il y a de l'espace, voilà. Alors, les derniers textes de Tristan Blumel.
Après si, creuse l'intérieur, et si, terre, aux premières loges, du silence, heureuse, terre, la longue connaissance, en cours, infuse, théière. Calme, tu vas, où tu vis, vraiment tu, parapluie, baleine, océan, où se ment, tiens. La ligne idéale pour un long tout, nuit, lumière, Odéon, même à distance, à court.
Oui, donc là, il y a une différence fondamentale avec d'autres textes que vous nous avez lus. Dans certains textes que vous nous avez lus, vous jouez avec des mots, avec des expressions consacrées que vous détournez. On entend des non-dits, il y a une richesse d'images et une tentative de faire au lecteur, à l'auditeur, des expériences diverses ancrées dans le quotidien, et un quotidien mené tambour battant bien souvent, alors que là, on est presque chez les poètes comme Edmond Jabès, comme Paul Celan, avec peut-être une dimension un peu plus verticale, pas transcendante, mais quelque chose de cet ordre-là. Il y a quoi ? Il y a une conversion chez vous ?
Je suis traversé en ce moment par une certaine intensité émotionnelle. J'ai envie d'écrire des poèmes, mais en me taisant, sans les mots, enfin, ce qui n'existe pas, mais écrire un poème sans rien dire, avec beaucoup de respiration, beaucoup de béatitude comme ça, respirante. Et alors que d'habitude, j'ai envie plutôt de des gestes de matraquage. Et là, c'est plutôt écrire un poème, mais où il n'y a que du blanc. Je suis pas le seul à être traversé par ça, hein. Mais là, d'un coup, je l'ai, cette idée. Et j'aime bien pas écrire tout le temps le même poème. En tout cas, je continue d'avancer. C'est la suite. Je vais voir où mènent ces grands blancs que je maîtrise pas du tout encore, j'ai l'impression. Mais je m'amuse, en tout cas, avec ces blancs. Peut-être aussi qu'en ce moment, je fais beaucoup poète public. Alors j'en ai marre, peut-être, d'écrire des poèmes. J'ai envie d'écrire des poèmes où il n'y a pas de mots. Voilà, je sais pas. C'est naturellement, en tout cas, j'ai envie de faire ça. Donc, c'est un bon indice. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse.
Eh bien, pour finir par une pirouette, on pourrait dire qu'il y a eu le grand bleu et que maintenant, pour Tristan Blumel, il y a le grand blanc.
Le temps passe très vite et nous voici à la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier très chaleureusement, Tristan Blumel, de m'avoir accueilli et de m'avoir accordé cet entretien. Entretien que j'espère nos auditeurs auront apprécié tant il révèle une personnalité singulière, unique, une voix qui va compter dans le milieu de la poésie. C'était Les Mots d'Azur ou La Poésie en direct. Je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.